Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, que nous sommes ravis une nouvelle fois de vous apporter plein de bonheur, plein de plaisir, plein de joie. C'est le printemps, nous sommes revenus à l'heure d'été, tout va bien et vous allez voir, on va encore vous gâter ce soir. Copieux menu, on va parler de foot américain avec nos invités. On aura un long aussi retour sur la finale de Coupe de France de volleyball. Hein. Théo y était aussi, on a vécu une soirée superbe. On reviendra naturellement aussi sur une interview d'un champion automobile, Adrien Fourmeau, qui a accepté de nous donner un petit quart d'heure d'interview durant sa campagne médiatique, et puis on aura toutes les rubriques habituelles, le foot, le journal des sports. Je vais dire bonjour et saluer donc tous ceux et toutes celles qui sont autour de la table. Bonsoir à Tania, d'abord notre invitée.
Bonsoir Philippe.
J'allais dire chargée de communication, c'est ça, d'abord de la Ligue, et puis responsable des Cobras, présidente.
Présidente, coach, je ne suis plus responsable de la Ligue. Hein,
D'accord, par contre, il faut parler bien près du micro. Voilà, ça va s'arranger, c'est parfait. Et puis lui est consultant, donc chez nos amis de Bein, il nous fait l'honneur d'être là ce soir. C'est Marc. Bonsoir Marc, Marc Angelo, c'est ça ?
C'est ça, Marc Angelo.
Bonsoir. Ça va Marc ? Ouais.
Ah, ça va très bien.
Que consultant à Bein ? Non.
Alors, je fais consultant, je suis aussi intervenant dans des franchises de football américain.
Ah, oui. Ouais.
Et on en a créé une qui s'appelle les Paris Light, qui va commencer dans le championnat européen.
D'accord.
Et
très bien.
Entre autres, je suis aussi très admirateur de ce que font les Cobras.
Eh ben, c'est très bien. Et puis, ben, justement, un des joueurs des Cobras. Dan, bonsoir Dan.
Bonsoir.
Tu vas bien, pleine forme ?
Super.
Ouais, t'as bien le gabarit, hein ?
C'est...
Voilà.
Il le faut.
Ouais. Et puis je veux saluer Vanessa qui est ravie, effectivement.
Mais oui,
ça va,
champion
Vanessa
du monde !
Entre autres, pour le patinage artistique.
Exactement, dire, champion du monde, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron en danse sur glace.
On
évidemment.
En
et oui, tout à l'heure, tout à fait.
Année exceptionnelle pour eux, ils ont tout gagné. Hein. Championnat de France, championnat d'Europe,
championnat du monde et Jeux Olympiques. Tout, cette saison.
Allez, on va commencer donc par le foot US avec Tania. Tania, alors, j'aime bien remonter un petit peu l'historique. Pourquoi le foot US ? C'est arrivé comment ? Dans ta vie, on va se tutoyer.
C'est ça. C'est arrivé suite à un match des Eagles où ils étaient déterminés dans la neige, on va dire plusieurs centimètres de neige au
sol. C'est quoi ? C'est le pub ? C'est le côté viril qui t'a plu, non ?
Pourquoi pas ? Le côté déterminant, de jamais rien lâcher. Le foot US, il ne faut jamais rien lâcher.
Parce que tu aurais pu t'intéresser au foot classique, au soccer.
Pas cette détermination dans la vie. Si tu n'es pas déterminé, tu te laisses faire et tu es au sol.
Donc c'est ce qui t'a plu dans le
foot
US.
C'est ce qui m'a plu, le fait de se relever, de jamais accepter de rester à terre.
Donc à partir de là, tu as commencé à vouloir t'investir ?
À vouloir m'investir, et puis j'ai mon mari qui voulait faire du foot US et qui s'est dit, moi je suis trop vieux, je lui ai dit, mais à 80 ans, tu ne vas pas me dire, je regrette, donc on va aller sur le terrain, et il a été pris, il a commencé à jouer, et j'ai commencé à le filmer pour voir ses positions, pour voir l'évolution.
Et ça t'a valu de rentrer à la Ligue, c'est pour ça que...
Sur tous les terrains d'Île-de-France, j'ai filmé un peu sur tous les terrains, c'est pour ça que je suis un petit peu connue dans tous les terrains en Île-de-France. J'ai participé aussi à la Ligue Île-de-France, mais maintenant j'y suis plus.
Je me souviens, tu étais venu à ce titre-là il y a quelques années.
À ce titre-là, et puis
années,
les émissions d'avant pour parler foot américain. Mais là, avec l'ouverture de l'association, tout ça, j'ai plus vraiment
et
le temps.
Et tu as décidé de monter effectivement un club, c'est dans le 15e, je crois.
J'ai décidé de monter un club qui s'appelle les Cobras de Paris.
Oui, dans le 15e,
et,
c'est ça.
Pour l'instant, c'est pas évident de trouver des terrains, de trouver des lieux où s'entraîner. Donc je suis à la recherche un petit peu partout. Mais la mairie du 15e, je les remercie, nous ont accueillis dans le 15e pour nous donner des créneaux sportifs.
Non mais le club existe quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Donc, alors, question simple, pourquoi les Cobras ? Les Cobras.
Je
sais qu'il y a toujours un nom dans le foot US, mais ça arrive comment les Cobras ?
Les Cobras, idée de ma fille de base, mais je suis infirmière et ça m'a fait penser au caducé. Et là, 1, 2, 3, allier sport et santé, pour moi, c'est obligatoire.
D'accord, ok. Donc,
pour la santé physique et mentale.
Ouais. Alors, c'est un club qui existe depuis maintenant quelques mois, c'est ça ?
Depuis l'ouverture officielle au mois de septembre 2025.
Il y a combien aujourd'hui de pratiquants et de pratiquantes, s'il y en a, des filles ?
Pour l'instant, il y a très peu de filles pour l'instant, mais j'espère avoir une section féminine, un de ces quatre. Pour l'instant, on a un peu plus de 110 licenciés.
Ah, quand même ?
Oui. 110 ? On a ouvert en septembre.
Et ils viennent tous de Paris, non ? Ou
des non, clubs non, non. Ils viennent d'un peu partout. Il y en a que je recrute aussi dans la rue. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais d'après leur gabarit, voilà,
comme ça
m'intéresse.
Dans la rue, tiens, toi, tu pourrais faire du fouet.
Voilà, je leur dis bien que je ne drague pas, que je suis mariée, mais que leur gabarit m'intéresse.
Ouais, ouais. Donc, après, une fois qu'ils viennent, comment ça se passe?
Une fois qu'ils ont deux trainings d'essai, ben on voit, certains trainings sont filmés, on voit où on peut les placer. Il faut aussi qu'ils s'amusent sur le terrain. Donc, on les place à un poste, mais ils tournent. Et avec les coachs, on parle de si les gens ont des mains, par exemple, ce qu'on dit avoir des mains, c'est savoir catcher une balle. Ils sont receveurs, s'ils sont, voilà, en fonction de leurs aptitudes physiques et sportives, on les place à un poste.
Et la tranche d'âge, elle est de quel âge ?
Nous, on est un peu les plus jeunes au niveau de France.
Oui, bien, 22 ans,
la tranche d'âge.
D'accord,
oui.
Ok. Et ça va jusqu'à la trentaine, non ? T'en as qui sont dans la trentaine encore ?
Oui, un petit peu, jusqu'à 33 ans. Enfin, sauf le directeur sportif qui est dans la cinquantaine, mais.
Ouais. Alors justement, on a Dan qui a rejoint les Cobras, c'est ça, Dan ?
C'est ça.
Toi, tu fais du foot US depuis combien d'années ? Et pourquoi le foot US aussi ?
Alors moi, c'est ma deuxième année en foot US. Je viens du sud de la France, donc j'ai grandi avec le rugby.
De quelle région ?
De Toulouse.
À Gaillac. On peut pas être chez Bernard Laporte. On peut pas être mieux.
C'est ça. Au niveau du rugby, donc j'ai grandi là-dedans.
Ouais.
Et en arrivant à Paris pour mes études, j'ai découvert le football américain.
Ouais.
Je me suis découvert une vraie passion pour ça. Je suis arrivé, j'ai fait un entraînement avec Laurent Etania.
Ouais.
J'ai adoré.
Ouais. T'as pas voulu continuer le rugby ?
Non.
Il y a des clubs sur Paris quand même.
Ouais, mais je pense que j'en avais un peu marre, j'avais envie de changer.
Ouais.
Et en fait, je me suis découvert une passion pour le football américain qui est facilement 2 à 3 fois plus forte que la passion que j'avais pour le rugby.
Ah ouais ?
Vraiment, c'est un sport qui m'anime vraiment.
Alors, les petites différences, c'est quoi ? C'est encore plus physique, c'est plus dur, il y a encore plus d'impact.
Alors,
dans le foot US ?
Oui, il y a beaucoup plus d'impact, je trouve, pour avoir joué aux deux sports. J'ai mon expérience personnelle. C'est beaucoup plus violent, mais c'est aussi beaucoup plus stratégique. Il y a toute la partie, on a tout un playbook à apprendre, c'est très technique, ça peut se jouer à quelques millimètres au niveau de la communication avec notre quarterback, parce que je joue au poste de tight end en attaque. Donc je dois vraiment connaître mon playbook sur le bout des doigts et savoir comprendre mon quarterback pour qu'il me lance la balle au bon endroit, au bon moment et marquer des points.
Donc tu vas essayer de débaucher des gens du rugby pour venir au foot US, non ?
Effectivement, j'ai essayé. J'ai quelques amis du rugby qui ont découvert le foot US grâce à moi.
Ouais.
Et bon, eux ne sont pas de Paris malheureusement, mais ils ont rejoint des clubs ailleurs dans le sud de la France.
Alors justement, Tania, comment on arrive à vivre du foot US en Ile-de-France ? Parce qu'on a reçu quand même beaucoup de clubs dans le passé. Choisy le Roi, c'était Châtenay-Malabry l'année dernière. Il y a des clubs qui, depuis, ont des situations un petit peu plus compliquées, quoi. Ça va, ça vient, au niveau des effectifs, notamment.
Ça dépend, justement, comme tu dis, Philippe, des effectifs. Ouais. C'est pas si simple à trouver. Pour avoir droit à jouer à 11, il faut un minimum de personnes présentes pour pouvoir assurer la sécurité des joueurs et du championnat. Donc, si on n'a pas un minimum de joueurs, on ne joue pas à 11, on joue à 9. Si on ne joue pas à 9, on joue à 7, etc.
Mais c'est pas un effet de mode, un petit peu ?
Qu'est-ce qu'il y a un effet de mode ?
Comme ça, par moment, on dit, tiens, je vais jouer au foot US, j'aime bien la culture américaine, alors je vais jouer, puis après ça passe peut-être, non ?
L'effet de mode, il est très bien, mais une fois que vous êtes sur le terrain avec le casque qui vous perturbe, ne serait-ce que Louis, la vue et tout ça, vous prenez une petite boîte et vous revenez sur terre aussi rapidement. Donc l'effet de mode, l'effet de mode, il est très bien, sauf que le foot US, ce que je voulais faire comprendre aux gens au départ, c'est que c'est un sport technique, tactique et physique. C'est pas juste je mets l'uniforme, voilà, je suis beau, j'avance. Et non, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et l'effet de groupe aussi. Être une meute, même
alors,
si.
Toi qui es maman, comme tous les jeunes, maman.
Jeune, merci Philippe.
Ouais, non, mais s'il fallait faire jouer ses enfants, il n'y aurait pas de problème parce que, un petit peu le sentiment, les parents peuvent être réticents un petit peu
Bien sûr, donc moi je vois les parents des jeunes que j'accueille et qui sont dans mon club. Je montre aux parents les 7 pattes de protection, les casques, puisque j'ai fait acheter les casques aux États-Unis, ils sont neufs et la protection est optimale. Moi qui suis infirmière,
Donc on peut rassurer les parents.
Bien sûr.
Il n'y a pas plus de
risques. Il y a une
épaulière.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus de risques. Il y a une protection à avoir. Ouais. Il y a un savoir-faire qui est appris par les coachs. Si vous arrivez sur un terrain que vous entraînez lambda et que vous n'êtes pas bien coaché, vous pouvez vous blesser. Mmh. Et la blessure fait aussi partie du sport.
Justement, Dan, est-ce qu'il y a aussi des protocoles commotion au foot US
Comme pour le rugby. Il y en a. Ouais. Effectivement, quand tu prends un coup à la tête et que tu te relèves et que tu vois flou, généralement, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi pour vérifier que tout aille bien. Et si ça va bien, tu peux retourner sur le terrain. Si ça va pas...
C'est tracé hein, avec l'arbitrage, tout ça. Mmh. Le joueur qui a une commotion, normalement, il ne joue pas pendant 15 jours.
Ouais. Non, mais c'est bien, ça me paraît logique. Ouais. Bon, Marc, le foot US, il arrive comment dans votre vie?
Il arrive à peu près de la même manière que tout le monde, c'est-à-dire à la télé.
Oui,
il y a très
culture
longtemps.
Culture américaine qui plaît, non?
Non, moi, c'était vraiment le sport qui me plaisait. L'aspect tactique, principalement. C'est-à-dire que je regardais ça, j'étais tout jeune, c'était en 1985. Les Giants avaient rencontré...
Grâce à Canal, Charles Bietri. Ah oui, sinon, il n'y avait pas de foot. Oui, mais voilà. C'est Bietri quand même qui était le patron des sports. On va montrer du foot US.
Et donc, il a poussé là-dessus. Moi, je regarde ça et j'aime l'aspect tactique. Ouais. Et c'est l'aspect tactique qui m'amène au sport. Ouais.
C'est vrai que Georges Eddy le commentait comme il commente le basket. Super. Et donc, à partir de là, ça devient une véritable passion.
Ça devient une passion. J'arrête même le basket pour. Les entraîneurs m'ont dit il faut que tu arrêtes le basket et que tu sois à 3 entraînements par semaine. À l'époque, c'était 3. Mm-hmm. C'était pas beaucoup. Mais...
Bon, le basket, c'est un sport physique aussi, mais c'est encore plus dur le foot US, non?
Oui, disons que le basket, j'ai pas fini beaucoup de matchs.
Oui.
Il y a 5 foot et après, vous allez vous asseoir. C'était un peu plus compliqué, mais ça devient quelque chose et rapidement, je suis pris en équipe de France. Oui, je suis pris en équipe de France. Et ensuite, des Américains viennent.
Alors, on n'a pas seulement qu'un consultant de beIN Sports, on a aussi un ancien international.
Joueur. C'est ça.
Combien de sélections?
Ouf, je comptais, je n'ai pas compté.
Bon, vous savez que...
Sur 10 ans.
Voilà, c'était un ancien champion d'athlétisme, Jacques Accambray, qui était le président de la Fédé.
Il n'était pas président. Accambray était président. Ouais. Et ensuite, c'est grâce à lui qu'on a eu la reconnaissance du sport de haut niveau.
On a eu l'occasion de l'interviewer. C'est pour ça que je me souviens bien que c'était Jacques Accambray qui avait été...
Accambray... qui fait partie de la liste des anciens présidents. J'ai eu l'honneur aussi d'être président de la fédération.
Un homme à tout faire alors. International, après ça se passe comment? On finit sa carrière et on veut s'investir justement de l'autre côté de la barrière?
Moi j'ai eu la chance de voyager grâce à... j'ai pu aller jouer au Canada, aux États-Unis, en Allemagne. Donc... À la suite de ça, j'ai eu des opportunités grâce au football américain et il faut rendre un peu.
Oui, bien sûr. Bon, une question, on gagne bien sa vie quand on est
joueur de football américain?
Alors ça dépend. En France?
En France, non.
Pas trop. Pas du tout.
En France, non. Aux États-Unis, très bien.
J'imagine,
Au Mexique, moyennement. Au Canada, oui.
Oui.
Au Japon, moyennement. Mais le top reste Canada et États-Unis.
Oui, alors vous avez joué en France et après vous êtes parti vous expatrier fatalement, non?
En fait, il y avait à l'époque une ligue qui s'appelait la NFL Europe qui m'a recruté et donc j'ai joué 4 ans avec eux et ensuite, par mes performances en NFL Europe, la NFL m'a appelé et j'ai pu jouer 4 matchs avec les Browns en NFL.
Oui, alors j'en parlais avec Tania hors antenne tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir du foot US au Stade de France, au mois d'octobre.
Eh oui.
Ça a été annoncé il y a quelques jours.
Il y avait une conférence de presse des Saints. Parce que les Saints sont la franchise qui possède les droits marketing sur la France. Et donc, naturellement, avec le rapprochement culturel, la Nouvelle-Orléans va jouer. Et on ne sait pas encore contre qui.
Non.
Mais j'ai une petite idée.
Alors, bon, vous avez décidé. Alors, vous aidez les Cobras de quelle façon?
Ne serait-ce qu'en les soutenant dans leurs activités. Alors, Tania, c'est quelqu'un que, comme elle l'a dit, tout le monde la connaît.
Oui.
Et quand elle a proposé de créer un club, et surtout un club qui se focalise sur les jeunes, ça c'est important.
Oui, ça c'est important.
C'est important l'avenir. Ils n'ont pas fait une équipe senior et puis hop, on va jouer. Non. On va développer des jeunes talents pour les Parisiens et pour ceux qui sont autour de Paris. Forcément, on a envie de soutenir une telle initiative, d'autant plus que comme elle l'a dit, le foot américain, c'est un sport où vous pouvez pas, on est 11, allez, hop, on va faire un club et on joue. Non. Il faut des structures, il faut des coachs, il faut des arbitres.
C'est peut-être le problème en Ile-de-France, parce que déjà, il faut trouver des terrains.
Il y a le problème.
Alors vous êtes obligé de les partager avec les terrains de foot ou bien de rugby, ce qui ne doit pas être évident.
C'est ça, à Paris, il n'y a qu'un seul terrain homologué en football américain, c'est la ville de Paris du 15e. Hein,
alors que c'est vrai qu'aux US et puis au Canada, on en voit une palanquée.
Mais
la culture n'est pas la même. La culture n'est pas la même en France, justement, là-bas.
C'est le sport numéro un. Nous, on n'est pas forcément
aux US, tout de moins.
Aux US, oui, aux US.
Mais au Canada, c'est le hockey. Hein.
Au Canada, en dehors du hockey.
Indéniablement.
Voilà. Mais ça fait partie aussi de notre héritage. C'est, on doit s'ajuster. On doit rentrer dans le paysage culturel français. Et pour ça, on joue, qu'on joue sur un terrain de foot ou de rugby, on s'ajuste. Et on vient en complémentarité des autres sports. Parce qu'il y a le basket. Y a le... Et c'est ça qui est un peu triste en France, c'est qu'on se voit beaucoup en opposition. Ah, je suis contre le rugby, je suis contre le football, je suis contre... C'est pas une opposition, on est en complémentarité. La population française est suffisamment diverse, a suffisamment de goût pour apprécier plusieurs sports. Et on le voit, on est bon en France dans tous les sports d'équipe.
Et c'est vrai en plus.
Dans tous les sports d'équipe, on est au top.
Ouais, ouais,
c'est pourquoi vrai. C'est pas parce qu'on aime que le foot.
On en parlera tout à l'heure, on peut aligner deux équipes de France de foot comme on peut aligner deux équipes de France de rugby.
Exactement.
Ah ouais, non, mais c'est vrai, hein.
Au basket,
ah ouais,
on est
basket
génial,
c'est pareil. Au hand, ça a été le sport le plus titré.
Le volley, pareil.
Voilà, c'est vrai.
On a une vraie culture de sport d'équipe en France.
Oui, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça aussi la difficulté des clubs qui ont du mal à vivre, parce qu'on en a reçu certains. Et puis bah, depuis, ces clubs, c'est compliqué.
Il y a un cycle de vie. Il y a le début d'un club et il y a la mort d'un club. Il y a certains clubs qui ne meurent pas. Tout le monde veut construire ce type de club-là, mais il y a peu d'élus.
Oui, bien sûr.
Exactement. Donc forcément, à partir du moment où il y a de l'initiative et qu'il y a la création de ces clubs, c'est ça qu'on doit soutenir. Ensuite, il y en a forcément, il y aura des taux de déperdition. Mais si on soutient bien toutes les initiatives qui se mettent en place, eh bien, on aura beaucoup de clubs. On aura des clubs qui n'auront pas à faire 50 km pour aller jouer contre un autre club. Surtout lorsque vous êtes jeune et que vous aimeriez juste rencontrer les gens qui sont à côté, que vous connaissez. Ça va créer une émulation. C'est l'animation territoriale dont on a besoin le plus.
Je me demandais, quelles sont les nations montantes, là, justement, en foot US? Et dans ces nations montantes, justement, vous parliez tout à l'heure un peu d'opposition, que finalement, en France, des fois, on oppose les sports. Est-ce que dans ces nations montantes, il y a un petit peu, peut-être, un schéma ou une culture différente ou une approche différente qui fait que ça draine peut-être plus de monde? Et voilà.
Vous avez très raison de parler de culture différente. Et... Parce que, un peu comme on le voit avec le rugby. Le rugby, on parle en France, c'est...
C'est le sud-ouest au départ.
Ouais, c'est le sud-ouest
Et après, ça se pratique en Bretagne maintenant.
Mais rendez-vous compte, c'est un sport anglais. Oui, c'est pas de chez nous.
Oui, bien sûr.
Mais on l'a tellement bien intégré que maintenant, on parle de French flair. Et bien, c'est un peu la même chose au football américain. Il y a des équipes, il y a des pays qui juste copient ce qui se fait aux États-Unis.
D'accord.
Il y a d'autres pays qui le prennent et qui en font leur sport. La France est un peu comme ça, ce qui veut dire qu'on ressemble un peu au rugby avec notre French flair, où on est capable du meilleur comme du pire. S'il y a des matchs, vous ne pouvez pas nous battre, c'est, peu importe qui vous alignez, mais il y a des matchs, tout le monde peut nous battre.
Oui, bon, on est des latins. Hein.
Et les Japonais...
Les Japonais, j'allais vous poser la question parce que
les
c'est...
Les Japonais sont allés à un niveau de culture qui est impressionnant. Ouais. Ils ont pris les sumos, ils ont adapté les techniques de sumotori sur la ligne, et ensuite, quand vous les voyez jouer, tout est basé sur la vitesse.
C'est ça, parce que je vous posais la question, parce que j'ai constaté dans plusieurs sports que les Japonais montaient en puissance et qu'ils allaient chercher justement des places, des médailles, mais aussi à exister dans ces sports. Et c'est pour ça que c'est cette question qui m'est venue tout de suite quand vous avez parlé de ça.
Et vous le voyez au baseball avec Shohei Ohtani, qui est le meilleur joueur pour...
Sport dont on a aussi parlé sur notre antenne.
Exactement.
Le baseball,
Et donc, ce joueur-là qui sort du Japon, vous regardez et vous dites, mais comment ils font?
D'ailleurs, c'est quand même le sport numéro un là-bas, au Japon, le baseball. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les arts martiaux, c'est le sport numéro un, c'est le baseball au Japon.
Ils sont foot, baseball, aux arts martiaux, vous les connaissez, mais s'ils se mettent à quelque chose, ils vont le faire. Et au rugby, on a vu qu'ils étaient émergents aussi.
C'est pas mal non plus, ouais.
Ils sont capables de battre des grosses équipes. Mm-hmm. Donc, les Japonais ont vraiment culturellement pris en main leurs choses. Et c'est ça qu'on doit copier.
Donc, c'est ce que vous expliquez aux jeunes qui veulent essayer de faire ce sport et surtout d'y rester, quoi.
Alors, j'irais même plus loin en disant que notre nom, on doit le changer. C'est pas du foot américain, sinon ça reste aux États-Unis.
Ouais.
Ça doit être autre chose. Ah. Je sais pas quoi.
Oui. Alors là,
je sais pas quoi.
Parce que il y a aussi du flag, c'est de
exact.
Flag football. Alors,
qui sera d'ailleurs sport olympique
qui en 2028.
En 2028, hein.
C'est exactement. Ça.
Sera sport olympique en 2028. Alors, il y avait quoi aussi pour les, il y avait d'autres activités.
Il y a le cheerleading.
Ouais, mais ça c'est différent.
Oui.
Ouais. 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 On en a parlé aussi. Ils nous ont expliqué pourquoi ils existaient. Hein. Ouais,
Le flag, c'est l'outil parfait parce que ça vous permet de jouer de 7 à 77 ans.
Oui. Je crois qu'il n'y a pas de contact, c'est ça.
Il
n'y
a pas de
c'est
contact et on symbolise le plaquage par les drapeaux qui sont sur vos côtés et qu'on arrache. Ce qui fait que vous pouvez le jouer non seulement intergénérationnel, mais aussi mixte. Et en France, on a des équipes mixtes qui jouent les unes contre les autres. Donc ça, c'est un atout qui est incroyable. Et d'ailleurs, on attend les Cobras au flag.
Oui.
Justement, à ce propos, j'ai un autre partenaire parce que j'ai pas mal de partenaires dans la team Cobra, donc la radio où on est. Il y a One Air Paris 13 aussi qui est partenaire et qui assure. Et j'ai aussi un joueur NFL de Cincinnati qui s'appelle Chris Evans. Et on organisera justement avec lui un tournoi de flag avec son équipe là-bas.
Donc,
il va venir ici.
Ouais, pour ceux et celles qui nous écoutent, vous recrutez encore ?
Oui, bien sûr, toujours. Ouais. On recrute des joueurs, des coachs, des féminines.
Pour faire partie donc de championnat ?
Bien sûr.
Non, mais faut le dire.
Paris. Oui,
et ça va
sûr.
Animer combien d'équipes ?
C'est-à-dire
espérez combien animer
À partir
engager
du moment,
combien d'équipes ?
En fait, on n'engage pas des équipes selon le nombre de joueurs qu'on a et de postes qu'on a. On peut faire une équipe A, une équipe B.
C'est ça.
Mais
c'est ce que je veux dire.
Ça dépendra.
Vous espérez avoir au moins deux équipes.
Oui, si c'est possible. Mmh. Maintenant, on est en création, donc je rêve pas non plus. Pour l'instant, je recrute. On voit ce qu'on peut faire avec les différents partenaires.
Ils s'adressent où ces gens ?
Sur le site
Cobra
de Paris, sur l'Instagram, de préférence sur l'Instagram, Cobra avec un S de Paris, @...
Et pour tout âge
77 ans, on va peut-être éviter la casse, mais...
Non, mais je veux dire chez les jeunes, je veux dire, même si on a 30 ans ou 35 ans,
bien sûr, mais non, c'est pas exclu du tout. De toute façon, comme je vous disais, comme je te disais, Philippe, le sport et la santé, voilà, pour moi, c'est...
On ne peut pas filles,
les différencier. Bien sûr, les filles aussi.
Il y a des équipes,
la femme existe aussi au sport, je veux dire.
Bien sûr.
Je ne vais pas mordre.
Le prix d'une licence, c'est d'une cotisation.
Alors, le prix d'une licence...
Est-ce que c'est un sport qui est cher, d'abord ?
Selon certaines mamans, parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup d'autres sports en dehors du football américain, ils trouvent que c'est un prix raisonnable et correct.
Combien ?
En fait, les clubs ajustent. Nous, c'est 190 euros le prix de la licence.
Mais il y a l'équipement aussi.
L'équipement, il n'est pas forcément facile à trouver, mais nous, on loue l'équipement. Mais chaque club loue l'équipement au prix qu'il veut et met ce qu'il veut dans l'équipement de base. De base, vous êtes censé avoir un casque, une épaulière et 7 pattes de protection.
Dan est venu avec, on prendra de belles photos qu'on verra sur notre site tout à l'heure. Hein. Il est venu avec le maillot puis le casque. Donc voilà. Dan, tu joues quel poste toi ?
Moi je joue tight end et D end.
Alors tu peux expliquer un peu ce que c'est pour le grand public ?
Alors le tight end, c'est un peu le mélange entre un O-line, donc les bloqueurs.
Oui.
Qui protège le quarterback et qui ouvre les trous pour que le
running back
puisse passer.
Le plus rapproché par rapport au rugby, ce serait un trois quarts ?
Ce serait un troisième ligne,
voilà,
je pense.
Troisième ligne, c'est ça.
Et donc, je suis un peu le mélange entre un O-line et un receveur,
d'accord.
En fait. Même si mon job principal, ça reste de bloquer, c'est le principal. Je peux aussi courir et catch des balles sur des tracés courts, des tracés longs et marquer des points.
D'ailleurs, on se spécialise très 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 jeune, hein, il faut le dire.
Dans le football américain ?
Oui. On choisit un poste très jeune, on peut pas.
On vous met à un poste, mais en général, ce qu'on a tendance à faire quand vous êtes jeune, c'est on vous fait tourner. Pour développer vos aptitudes, mais aussi pour pas trop vite spécialiser. En fait, ce qu'on veut, c'est développer un athlète.
Oui, puis on peut grandir étant jeune. Hein.
Voilà.
On peut. Voilà.
On veut développer un athlète, quelqu'un qui a une connaissance du jeu, et ensuite le développement physique du joueur vous dira où il ira.
Oui. Et vers quel âge en moyenne ça ?
Alors, ce qui 18, est bien,
20 ans on...
Voilà, 18-20 ouais. ans, et il y a même des joueurs, même en NFL, qui jusqu'à 22 ans ne sont pas spécialisés.
Ah oui ?
C'est très rare, mais on a, par exemple, un joueur qui a été drafté en NFL à Jacksonville, qui joue attaque et défense.
D'accord.
Donc, des deux côtés, et il n'a toujours pas fait de choix. Mais ouais, c'est bien. C'est bien.
Alors, en même temps, vous avez décidé de monter un club parisien, c'est ça ?
Oui.
Ouais.
Alors,
tant mieux pour nous, hein, qui sommes Radio Parisienne.
Alors nous, on évolue dans une ligue européenne, qui est une ligue fermée, qui a sa première année d'existence. Et on a monté cette équipe qui s'appelle les Paris Lights. Et donc, on va pouvoir représenter Paris.
C'est
l'émanation
du fameux grand club parisien qu'il y avait là.
Les nations du grand club.
L'émanation.
L'émanation.
Oui, il y avait un club parisien important, les Mousquetaires, je crois que c'est
les
ça.
Les Mousquetaires, ils sont toujours là. Hein.
Ah d'accord, d'accord. Sauf non, mais moi j'essaie de... Voilà, pour le grand public...
En fait, on est les fondateurs des Mousquetaires.
Oui, je vous c'est pour ça que je vous pose la question.
Voilà. Prenzi d'Orléans et moi-même, on est les fondateurs des Mousquetaires.
J'ai trahi mes dossiers. Voilà. Pour
donc,
ça que...
Les Mousquetaires sont toujours là. Nous, on est rentrés dans une autre ligue. Oui. On a créé cette équipe.
Pourquoi ?
Principalement parce qu'il y avait l'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle ligue qui s'est montée. Mmh. Les Mousquetaires ne peuvent pas jouer dans les deux.
D'accord.
Donc, il y avait l'opportunité de créer une nouvelle équipe. Et on a suffisamment de talent pour faire ça. C'est-à-dire que l'Île-de-France... Et l'une des régions, un peu comme dans tous les sports, qui produit le plus de joueurs. Mm-hmm. La majorité de nos joueurs, malheureusement, comme ils ne trouvent pas de place sur le territoire, ils sont recrutés à l'étranger. Mm-hmm. Et donc, on a plein de Français qui jouent en Espagne, en Allemagne, en Finlande. Et à un moment, on dit, ça serait bien qu'ils jouent ici, quoi. Devant leur famille et puis qui représentent un peu nos couleurs.
D'accord. Donc votre club, il en est où actuellement? Il a été monté, ça y est? Il est rentré dans les compétitions? Pas encore? Non, vous recrutez encore?
On lance une grande journée de recrutement qui aura lieu le 26 avril.
Ah oui, c'est proche, bientôt. Là.
Ah oui, et alors on dévoilera le nom du site où on aura cette journée de recrutement plus tard. Et en parallèle à ça, nous, on commence le championnat fin mai.
D'accord.
Bon, on est de repos le fin mai, mais le dernier week-end de mai, on joue notre premier match à domicile.
D'accord. Et ça va être où, votre stade? Est-ce qu'on peut...
Alors justement, là, grâce au municipal, on a dû repousser un peu. On a eu quelques surprises par rapport à des nouvelles équipes, donc on est en discussion pour clôturer ce dossier-là.
D'accord.
Mais ça sera en Île-de-France.
Oui, parce qu'à un moment, il y avait eu Évry Bondouf, l'ancien.
Oui, voilà. Il y a Évry Bondouf. Il y a...
Là où joue Fleury Mérogis au foot, d'ailleurs. Hein.
C'est ça, il y a aussi d'autres stades qui peuvent nous accueillir.
Charletti, pourquoi pas? Il est à peu près libre.
Un peu trop libre, même.
Oui,
certains disent.
Ouais. Il y a eu du foot, jadis, à Charletti.
Oui, ouais, il y avait le PFC qui y jouait.
Oui. Et le Paris 13 Atlético commence à y jouer à nouveau. Mais enfin, il y a quand même des créneaux suffisamment disponibles. Hein.
Ça, c'est sûr. Alors, le stade est un peu grand, quand même.
Oui, ah oui.
Puis il y a une belle piste d'athlé.
Un peu trop grande.
Oui, ça.
Mais c'est un stade d'athlé. Mais par contre, on peut faire de très belles choses à Charletti. Surtout si on arrive à communiquer comme il faut et la radio pourrait nous aider.
Oui, non, mais vous viendrez nous en reparler. Hein. L'antenne vous est grande ouverte sans aucun problème.
Avec plaisir.
Voilà. Donc vous recrutez, on va rappeler le 26 avril.
26 avril.
Ouais. Et les gens qui veulent tenter leur chance, comment ils font? Ils écrivent sur votre site?
Alors, si vous voulez tenter votre chance lors, lors de la feuille de recrutement, vous allez sur notre Instagram, Paris Light, et là, vous pouvez, il y a des feuilles d'informations qui vous donnent à la fois toutes les informations nécessaires, mais en plus, vous pouvez vous inscrire. Sinon, ce qu'on fait et ce qui se passera pour beaucoup de joueurs qui viendront, on les redirige vers les autres clubs.
Ah d'accord.
Parce que nous sommes un club qui joue le plus haut niveau européen, mais qui n'a qu'une seule équipe. Ça veut dire qu'on se positionne en complément.
Ah oui, c'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres équipes autres qu'une seule équipe?
Alors, pour nous, non. Ouais. Parce que vraiment, on veut valoriser le travail qui est réalisé par les clubs de la fédération. Donc, il n'y a qu'une seule équipe. On ne fait pas de concurrence aux équipes de la fédération ni de la première division, étant donné qu'on ne joue pas du tout dans le même championnat. Mais par contre, dès qu'on a des joueurs, on les renvoie vers ces clubs. Mieux, cet été... Les jeunes joueurs de ces clubs pourront venir participer à des entraînements et à des entraînements de l'équipe première pour s'améliorer.
D'accord.
Et comme ça, en septembre, lorsque leur saison revient, ils ont travaillé pendant tout l'été et ils peuvent retourner dans leur club et participer à la vie de leur club.
Mmh. D'accord. Donc, vous n'hésitez pas surtout à communiquer et à nous donner de nouvelles. Bon, alors, vous avez été, je l'ai dit, l'homme à tout faire. Vous êtes aussi consultant sur Bein. C'est une aventure humaine qui vous passionne ?
J'ai découvert un autre métier. Parce que,
bah oui.
Bah moi, j'étais joueur, quoi. J'étais joueur, j'étais entraîneur. Ouais. Et j'ai un parti pris. J'arrive et voilà mon équipe, point final. On est là pour gagner. Ouais. Quand vous êtes consultant, vous devez regarder les choses de manière objective et ne pas avoir de parti pris.
Comme nous, les journalistes. Hein.
Exactement.
Là, pareil. Hein.
Et là, donc, j'ai découvert un autre pendant. Mm-hmm. De cela, mais que aussi passionnant. Ouais. Et puis surtout, Beansport nous a mis dans une situation qui est vraiment top. Parce qu'on commente les matchs en direct, on commente tous les matchs. Ça veut dire que je vois toutes les équipes. Et en plus, avec des garçons qui sont aussi passionnés que moi.
Mmh. Ah, il faut, je crois que. Il faut. Est-ce que critiquer certains de ses anciens collègues, c'est facile ? On en parlait un petit peu hors antenne. C'est le problème dans tous les sports. Hein.
Moi. Au début, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup d'amis qui étaient encore sur le terrain. Maintenant, ils sont coachs.
Ouais, mais même.
Mais maintenant, ils sont coachs.
Coach. On peut dire qu'il a fait le mauvais choix, qu'il n'a pas fait le. Voilà.
Ouais, j'avoue que deux ou trois fois, je me suis lâché. Mais c'est important aussi d'avoir cette objectivité et d'être clair avec les gens.
Bien sûr.
Quand mon ami se foire, eh ben. Il se foire.
Bah oui.
J'ai tendance à utiliser d'autres mots, à vouloir passer. Oui, mais. Ouais, mais non.
Après, il y a une façon de le dire, quoi.
Voilà.
Il y a une façon de le dire.
Mais c'est aussi l'objectivité et la clarté, l'honnêteté.
Oui, non, mais.
De dire.
Bah oui.
Là, il n'a pas été bon.
Bah oui. Mais le sportif, il peut le savoir lui-même. Il le sait. S'il n'a pas été bon, s'il a fait un mauvais match, il le.
La chose que j'ai beaucoup appréciée avec le football américain, c'est qu'on filme tout. C'est-à-dire qu'on filme nos entraînements, on filme nos matchs, et ensuite on regarde tout. Mm-hmm. Et ce qu'on dit, c'est la vidéo ne ment pas.
Bah oui.
T'as beau avoir une opinion de toi, de ça, oui, la vidéo ne ment pas. Mm-hmm. Est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu ne l'as pas fait?
Oui.
Et si tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui a fait que tu as échoué? Mm-hmm. C'est, l'échec apprend beaucoup.
Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Prenez des vidéos, faites face à vos échecs, vous serez meilleur le lendemain. Mm-hmm.
Dan, un petit mot sur la finale du Super Bowl. Hein. C'est une grande fête chaque année. J'ai l'impression qu'on a un petit peu moins parlé cette année. Alors, il y avait Classico de foot le même week-end.
Pourtant, c'était un match qui était assez attendu. Assez attendu, non, parce que c'est deux équipes qu'on ne s'attendait pas du tout à voir au Super Bowl cette année-là. Mais il s'avère que c'était un match un peu plus compliqué à regarder pour les gens qui ne sont pas vraiment fans de football américain, parce que c'est un match qui était très défensif, en fait. Mm-hmm. Donc, quand on ne connaît pas les rouages de ce sport, c'est difficile d'apprécier le spectacle. Même si, notamment, la défense des Seahawks était assez exceptionnelle sur ce match-là. Et étant un joueur qui joue aussi en défense, moi, j'ai adoré regarder le match, du début à la fin. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne suit pas vraiment ce sport et qui regarde que le Super Bowl une fois par an, c'est compliqué.
C'est ça la difficulté. Hein. Ouais. Mm. Puis bien connaître les règles, bien connaître aussi, et d'où l'intérêt d'avoir des excellents consultants. Quoi, hein. Allez, on va marquer une petite pause musicale. Ensuite, on a un programme très chargé. On va passer au volleyball. On aura également le journal des sports. Et puis, on parlera sport automobile. Hein, ensuite, allez, et on finira avec Marius pour le foot. Donc, la musique et ensuite Théo pour son abondant journal des sports, comme chaque semaine. Faded. Your love is faded. Your love is faded. I feel it fade. When no one ain't around, I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Well, ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. Fade away. I feel it. Fade away. Yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love. I wanna. I'm trying to feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. I feel it. Your love is fading. I feel it. I'm
less, nigga? I feel it. Fuck, can you feel less, nigga? I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it. I think too much. I feel his face. Ain't nobody watching. I feel his face. I just fade away. I feel his face.
Voilà Théo, donc comme chaque semaine, le journal des sports, on commence naturellement avec ce qui a été l'événement sportif du week-end, le titre de champion du monde du couple Cizeron-Laurent Baudry-Fournier.
Évidemment, on ouvre sur le journal des sports par du patinage et donc je vais tout de suite laisser la parole à Vanessa, notre spécialiste.
Et donc oui, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont remporté ce titre de champion du monde, le grand chelem donc sur la deuxième partie de saison, champion d'Europe, champion olympique et champion du monde. Seulement une saison ensemble et ils ont tout gagné sur cette deuxième partie de saison. Et donc sur ces championnats du monde, c'est même leur meilleure performance de leur saison.
Ils ont battu le record. Hein.
Et j'en ai eu des... Ils ont battu leur record exactement. Au total, 230,89 sur le cumulé des deux programmes. Et puis, moi, écoutez, j'en ai eu des frissons et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment excellents. Il n'y avait pas leurs principaux rivaux, Madison Schock et Evan Bates, mais ils ont vraiment excellé. Et donc, ils devancent les Canadiens Guinness Poirier et donc les Américains Zynga Skolesnik, les jeunes Américains, qui pour leur première saison décrochent cette première médaille mondiale. Et puis on va parler évidemment des hommes. Donc Ilya Malinin, superbe retour.
Résurrection.
Avec résurrection, parce que c'est un grand champion, Ilya Malinin. Il a toujours été fort mentalement, il était excellent techniquement, et c'est aussi un artiste. Et là, 5 quadruples sauts cette fois, pas de quadruple axel, pas de quadruple boucle, mais 5 quadruples et un super programme hein, voilà, du Ilya Malinin. Il devance les deux Japonais, d'où les Japonais, hein, donc Yuma Kagiyama, le vice-champion olympique, et Ishun Sato, son compatriote, médaillé de bronze des Jeux. Adam Sioimfa, le premier et cinquième, alors troisième du programme court, un peu en fait à l'image de sa saison en demi-teinte. Il assure sur le court cette saison et puis sur le libre, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a cette chute sur le quadruple Lutz et d'autres errants dans le programme. J'aimerais quand même dire un mot de Kevin Emos qui est septième, mais avec un comportement très combatif. Et donc, il a fait une combinaison quadruple, triple boucle piqué. Certes, il y a eu cette chute sur le deuxième quad, mais tout de même, il faut saluer cette belle performance et ce beau comportement. Le troisième français, le jeune François Pitot, est 20e. On va parler des dames maintenant. Donc, Kaori Sakamoto décroche sa quatrième couronne mondiale. Elle devance sa compatriote Monet Shiba, qui était médaillée de bronze l'année dernière aux Mondiaux. Et puis troisième, c'est la surprise Nina Pinzaron, la Belge. Sublime surprise, elle a vraiment marqué les esprits. On va juste donner les résultats des couples.
Oui.
Les couples, c'était les Allemands Minerva, Fabien Aze et Nikita Volodine qui l'emportent donc devant les Géorgiens Metelkina Berulava et troisième, les jeunes Canadiens Pereira Michaud. À noter que les Français sont 17e, Kovalev, et que chez les filles, Laurine Schild est donc 18e. Voilà pour le résumé de ces mondiaux. Moi, ce qui m'a marqué, ça a été Ilia Malinine, Nina Pinzaron, la surprise. Et puis, évidemment, j'ai été ravie du sacre de nos Français. Faut quand même saluer cette sublime performance. Bah, voilà, bien sûr, c'est évidemment. Et puis, quand même, eh ben, la une de l'équipe d'hier. Hein,
c'est pareil,
c'est à noter parce que c'est rare que.
Ça arrive parfois. En
ça arrive, mais c'est rare quand même que l'équipe que ça fasse la une des journaux. Donc, bah voilà, je voulais saluer. Bon, on repart. Avec une belle saison pour nos Français. Et puis chez les hommes, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, une nouvelle page à écrire pour la saison prochaine.
Très bien, donc c'est fini pour le patinage, puis c'est aussi fini par le ski alpin, puis pour le ski de fond, hein, comme le biathlon la semaine dernière.
Exactement, ski alpin et les dernières courses de Coupe du Monde à Lillehammer en Norvège. Alors chez les femmes, le slalom est remporté par l'américaine Schifrin, qui remporte par la même occasion son 6e gros globe en carrière, et c'est Marco Odermatt qui s'impose au général chez les hommes. Quelques mots de ski de fond avec le classement final de cette Coupe du Monde. Chez les femmes, l'américaine Diggins s'impose devant les suédoises Hillar et Dalkvich. La compétition a été remportée par Claibo chez les hommes. Oui. Le norvégien termine devant son compatriote Amundsen et l'italien Pellegrino.
Lui aussi, super saison. Hein. C'était l'homme des Jeux, super saison. Aussi comme d'ailleurs nos biathlètes dont on avait parlé la semaine dernière avec Vanessa.
En effet, on file maintenant au Japon pour le GP de Formule 1 remporté par le pilote Mercedes Antonelli qui devance Oscar Piastri et Charles Leclerc. Grâce à sa victoire, l'Italien devient le plus jeune leader de l'histoire du championnat devant son coéquipier Russell et Leclerc. Au classement constructeur, Mercedes est devant Ferrari et McLaren. En MotoGP, Bezzecchi s'impose à Austin devant Martin et Acosta. L'Italien signe sa 3e victoire en 3 courses et est donc logiquement premier au classement de pilote devant les Espagnols George Martin et Pedro Acosta. Du cyclisme maintenant sur le classique belge Grand Wielbelgen. Jasper Philipsen s'impose devant son public au sprint devant Tobias Lund Andresen. En tennis, le numéro 2 mondial Sinner s'impose sur le Master 1000 de Miami en s'imposant en finale justement face à Leeka, 6-4-6-4. Auteur d'un très beau tournoi, le français Arthur Fils a cédé en demi-finale face au Tchèque perdant en finale. Chez les femmes, Arina Sabalenka domine Coco Gauff en 3-7, 6-2, 4-6, 6-3 et devient la 5e joueuse à remporter les 2 grands tournois de la tournée américaine en mars. On passe au rugby et la 20e journée de top 14. Grosse victoire du Stade français 64-20 face à Clermont. De son côté, le Racing 92 s'incline sur la pelouse de Pau 27-17. Au classement, le Stade français est 3e et le Racing 7e. En basket, 34e journée d'Euroleague pour nos clubs français. Défaite de l'ASVEL 93-83 sur le parquet du Bayern Munich. Monaco s'incline aussi face aux Panathinaikos 107-97. Le Paris Basket a un match de retard et jouera demain soir contre le Virtus Bologna. Au classement, Monaco est 10e, Paris 17e et l'ASVEL toujours en dernière position. Et en Betclic Elite, 24e journée de championnat, le Paris Basket s'impose face à Dijon 92-76. Victoire également de Nanterre face à Saint-Quentin 80-75. Au classement, Nanterre est toujours 2e derrière Monaco et devant le Paris Basket. En handball, le PSG s'impose 34-33 face à Nîmes et reste leader au championnat avec 2 points d'avance sur le HBC Nantes après 21 journées. Dans le championnat féminin, 19e journée pardon, et courte défaite du Paris 92 face à Truchtersheim, 27-26. Au classement, les Parisiennes sont 8e à égalité avec Dijon. Et on referme ce journal des sports par du volet. Alors l'allée des play-in, Cannes s'est imposée 3-0 face à Nice. De l'autre côté, le Plessis Robinson a dominé le derby parisien en l'emportant 3-1 face au Paris Volley.
Ce qui est bien, c'est que c'était les deux équipes qui étaient en finale de Coupe de France. Hein,
exactement, elles ont toutes les deux perdu. Les matchs retour ont lieu ce mardi soir. Ouais. Et enfin, ce week-end avaient lieu les finales de Coupe de France féminine et masculine de volleyball à l'Adidas Arena. Chez les femmes, Mulhouse surclasse Vendeuvre-Nancy 3-1 et conserve leur titre de championne de France. Chez les hommes, Paris s'impose également 3-1 face à Nice et remporte la Coupe de France 22 ans après son dernier titre.
Alors, tu étais dans les tribunes. Hein,
exactement.
Qu'est-ce que tu as pensé ? Ça a été un énorme succès populaire. Hein.
C'était assez impressionnant. Ouais. C'était l'une des premières fois que je voyais vraiment du volley avec une telle effervescence dans les tribunes, outre Jeux Olympiques ou quoi. Vraiment une très 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 belle ambiance, les gradins remplis et du beau spectacle sur le terrain et même à la réalisation, c'est-à-dire que c'était un très joli spectacle lumineux avant le match, des belles présentations, c'était vraiment super franchement, un bel événement.
Ouais, alors les deux meilleures équipes donc s'affrontaient, hein, celles qui sont sorties en tête de la saison régulière, Mulhouse contre Vendeuve. On va écouter donc le président de cette équipe de Vendeuve, Patrick Venturini, malgré tout pas trop déçu d'avoir été battu par cette équipe de Mulhouse en finale de Coupe de France. pas trop déçu d'avoir perdu cette finale?
Non, pas trop déçu. C'était un super match de volley, une super promotion pour le volley féminin. Au début, quand on nous a dit on va aller à l'aréna mettre 7000 spectateurs, on signait tous. Puis la preuve, la Fédé l'a fait. On la remerciera jamais assez du spectacle qu'il y a eu cet après-midi. Alors, je pense que la hiérarchie a été respectée. Nous, c'était notre première finale. Comme on dit dans le sport, je pense que voilà, là, les deux premiers sets, on les a joués un peu petit bras. Voilà, et on a vu que dans le troisième set, on pouvait le faire.
Et vous l'avez payé un peu après. Hein.
Oui, on l'a payé. Et puis l'expérience, de l'autre côté, a marché. Après, alors oui, Mulhouse a gagné la finale. Par contre, je pense que nous, à l'applaudimètre, on l'a gagné. Voilà.
Oui, parce que les supporters sont venus nombreux quand même. Hein.
Oui, voilà, alors là, je ne les remercierai jamais assez. On était entre 400 et 450 supporters. C'est quelque chose de fabuleux, quoi. On est parti avec trois bus, avec un demi-train. Voilà, ils ont tous fait le déplacement. Et surtout, c'était une belle fête. C'était une belle fête. Et on a eu une ambiance super. Et voilà, quoi.
Si la saison n'est pas finie.
Mais oui, la finie. Maintenant, il reste les playoffs. On va tout mettre dans les playoffs. Et je pense qu'il y a une revanche à prendre. Pourquoi pas en finale des playoffs. À nouveau à Mulhouse VNVB.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite.
En tout cas, ça vous donnera l'envie de revenir ici à l'Arena.
Ah oui, 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 oui. Non, c'est. Là, la Fédé, elle a mis la barre haut. Mais je pense qu'on a été à la hauteur. Et c'était vraiment quelque chose de magnifique. C'est une belle promotion du volley.
Merci, président.
Merci.
Voilà, effectivement, belle promotion du volley. On va rappeler que c'était 25-20, hein, le premier set, 25-22 le deuxième. Alors effectivement, ils ont réussi, cette équipe de Vendreuve, à gagner le troisième set, 27-25, mais ils l'ont carrément payé, ils ont craqué hein, face à cette machine mulhousienne dans le dernier set, 25-15. On va écouter maintenant, avec l'aide de nos confrères donc de la presse lorraine et alsacienne, eh bien Léa Solner, qui était la libéro de cette équipe de Mulhouse, et vous allez voir qu'elle avait avec elle beaucoup, beaucoup de supporters. Bon, Léa.
J'imagine que c'est, voilà, c'est difficilement descriptible, le sentiment.
Oui, très, 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 très heureuse. C'est un doublé. C'est génial. Je suis très, très heureuse, très fière de l'équipe. C'était un beau match ce soir. C'était, voilà, cet après-midi même, parce qu'on a joué à 15h. C'est pas une horaire qui est évidente. Donc, voilà, on a fait un beau parcours. On a éliminé Paris, le Canet. Et là, on gagne contre Nancy. Je suis trop heureuse, voilà.
Récupérer, gagner, garder le trophée, c'est un peu un exploit. Peu d'équipes l'ont fait avant Cannes, il y a quelques années, quoi.
Oui, la Coupe de France, c'est toujours compliqué. Donc faire un doublé, c'est juste quelque chose de beau et d'historique pour le club, parce qu'on ne l'a jamais fait. Donc trop fier.
Grand chelem maintenant, peut-être.
Oui, ça va être l'objectif. On va déjà savourer, voilà. On va déjà savourer et ensuite, on passera à la phase play-off. Dans quelques jours, mais là on va déjà savourer, voilà.
Avec des supporters qui sont nombreux, ça faut pas oublier.
Oui, les supporters étaient présents, ça nous a fait du bien, ça nous a porté, donc génial.
Dans une salle et une ambiance assez géniale aussi. Hein.
Oui, c'est la première fois que je joue devant 8000 personnes, donc l'ambiance était juste magnifique. En plus, il y avait aussi beaucoup de supporters de Nancy, donc c'était beau pour les deux équipes, voilà.
On a l'impression que malgré ce set concédé, il pouvait rien vous arriver aujourd'hui.
Je pense qu'on était au-dessus aujourd'hui et effectivement elles se sont très, très bien battues, c'est pour ça qu'elles ont remporté ce set et après on a repris l'ascendant, donc trop contente. Voilà.
Ça a passé par quoi?
Je pense par plusieurs phases, on a un peu mieux servi. On a un peu mieux servi, je nous ai trouvé bien à l'attaque, je trouve qu'on a été un peu plus combative et voilà, c'était top. Voilà.
Il y a une petite fête ce soir qui est prévue, non?
Oui, il y a un retour à Mulhouse en train et je pense qu'une belle fête ce soir, voilà.
C'est bien.
Merci à vous.
Voilà, vous avez vu, hein, elle avait pas mal de supporters, hein, Léa. Allez, Leandra Olinga Andela, c'est la centrale de Mulhouse. Elle aussi, naturellement, apprécie cette belle victoire obtenue en Coupe de France.
C'est quoi le sentiment là?
Incroyable, le sentiment qu'on mérite cette victoire. Voilà, on travaille depuis toute l'année pour ça, et c'est vrai que quand t'es premier et favori, je l'ai déjà dit, mais c'est toujours aussi un peu difficile de tenir ce rôle-là, parce qu'on nous attend au tournant, il y a beaucoup de pression, et je suis trop contente, on a su être au rendez-vous aujourd'hui. Quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du troisième set, ouais, au moment où voilà, vous perdez deux balles de match et puis Nancy revient?
C'est toujours comme ça. C'est... Enfin, maintenant, avec l'expérience, je sais que les moments chauds, un peu comme ça, si on ne concrétise pas un peu avant, bah, elles reviennent et après ça se joue. C'est une très belle équipe en face aussi, donc je pense que c'est encore une plus belle victoire comme ça parce qu'elles ont aussi montré des belles choses et elles méritaient un 3-0 et était peut-être sévère pour elles aussi.
Mais il n'y a pas eu de doute après?
Non, il n'y a pas eu de doute.
En défense, au bloc, vous avez été quand même...
Je pense qu'on était à un niveau supérieur, mais elles ont montré franchement des belles choses encore une fois. Je trouve qu'un 3-0 aurait été sévère pour ce qu'elles ont montré aussi. Mais à la victoire, c'est pour nous à la fin, donc je suis trop contente.
L'ambiance au Palais des Sports de Mulhouse est belle, mais alors là...
Hein, franchement, le Palais des Sports dans mon cœur, mais celle-là, je vais m'en souvenir quand même de celle d'Adidas Arena.
Plus de public ou trois fois?
Franchement, c'est un truc de fou et il faudrait que ça soit le volé comme ça tout le temps. C'est trop bien de jouer comme ça, franchement.
La fête va être belle?
C'est pas encore ce qu'on va faire, mais elle va être belle, c'est sûr.
Et la saison n'est pas finie?
La saison n'est pas finie.
Effectivement, la saison n'est pas finie. C'était aussi le même son de cloche de l'entraîneur de cette équipe de Mulhouse, donc André Sault. Il veut apprécier la victoire, mais il veut surtout que ses joueuses restent concentrées pour faire effectivement le grand chelem, c'est-à-dire obtenir le titre de championne de France.
Bon, alors André, bah, mission accomplie.
Oui, voilà. Comme je dis toujours, pour gagner un titre, d'abord, on doit être dans les finales. Et c'est ça qu'on a fait. Et à partir du moment que nous sommes dans la finale, de profiter de l'opportunité. Donc je suis très fier de le match que mon équipe a développé. Et encore et un titre de plus pour le club, pour la ville, et qui nous donne beaucoup de fierté.
Et au troisième set, il n'y a pas de doute quand ils viennent arracher ce troisième set au finish?
Il n'y a pas de doute. Les choses que j'avais dit, les joueuses, que c'est normal quand on joue contre une équipe avec la qualité de Vendor, que c'est un résultat que ça peut passer. À nous de tourner la page tout de suite et de se concentrer sur le quatrième set. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et heureusement, on a contrôlé ce set-là et voilà, et on a gagné le match.
On a l'impression qu'il ne pouvait rien vous arriver aujourd'hui.
Ah, c'est facile de dire ça maintenant. Mais voilà, il y avait certains moments de jeu qui étaient importants et qui ont réussi à faire les points. Et après, je pense que ça a impacté beaucoup l'adversaire d'une façon négative et à nous positive. Et après, on peut dire que c'est ça qui a facilité le jeu, mais il était à certains moments.
Il y a un grand chelem à faire maintenant.
Pardon ?
Il y a un grand chelem à faire.
Voilà, maintenant commence la saison. Maintenant commence la saison, voilà, l'aventure de la coupe c'est fini, l'aventure de la phase régulière c'est fini, ça commence le play-off, on n'a pas beaucoup de temps, on ne sait pas même encore notre adversaire, le quart final, mais voilà, à nous d'abord de profiter et après de se concentrer sur l'avenir.
Un tout petit peu la fête ce soir et après on retravaille.
On verra s'il y a la fête ou pas, mais oui, d'abord je dois profiter, se reposer et après travailler.
Déjà un billet pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est pas mal ça.
Oui, déjà la première place au championnat, ça nous a donné la Survey Cup. Donc maintenant, cette place-là, la Survey Cup, va passer pour le championnat. Mais on vous, bien sûr, qu'on vous joue la Coupe d'Europe, et c'est important. Donc le premier objectif de la saison était fait.
Qu'est-ce qui fait la force du VMA cette saison?
Qu'est-ce qui fait la force jusqu'à un moment? Et jusqu'à un moment, c'est qu'on n'oublie pas des valeurs, la philosophie et la quantité de travail qui nous possibilite d'être là. Donc je pense que c'est ça la force, de rester humble, de rester simple et de savoir d'où on vient et où on veut aller.
Voilà donc du côté du coach de Mulhouse. Alors ensuite, Théo, on a eu la finale homme. Et là, ça a été un match très serré. Hein. Paris a battu Nice 3-1. Deux équipes qui ont fini en milieu de tableau, qui se battent pour justement, j'allais dire, continuer leur saison. 30-28 dans le premier set, 25-23 pour les Parisiens dans le deuxième, 26-24 pour les Niçois dans le troisième, et puis 26-24 aussi dans le quatrième set. Hein. C'est quand même incroyable. Hein.
Ouais, ça a été un match très serré dans les intentions. Comme tu l'as dit, deux équipes qu'on n'attendait pas forcément en finale, elles ont fait un très très beau parcours vu qu'elles avaient beaucoup de difficultés dans le championnat homme.
Oui.
Et je pense que Paris a fait la différence dans les intentions. J'ai trouvé cette équipe un peu plus forte, comment dire, physiquement presque. Mm-hmm. Notamment leur pointu à Paris, c'est le russe Vassiliev Molotov qui est un des meilleurs marqueurs du championnat, un des meilleurs serveurs du championnat, ce qui est assez paradoxal vu qu'il joue dans une équipe qui galère et qui là peut-être et en tout cas est mal embarqué dans les play-in. Et ça a peut-être fait la différence sur ce genre de points où on lui envoyait tous les ballons chauds et il arrive à marquer quasiment le point même s'il y a trois gars au bloc face à lui. C'est assez impressionnant à voir en direct dans la salle. Et un très très beau match en tout cas, franchement ça fait plaisir. C'est une très belle pub pour le volley que
Et on va rappeler que ça fait 22 ans hein,
que Paris n'avait pas gagné
donc la Coupe de France.
Et eux aussi, du coup, sont qualifiés en Coupe d'Europe grâce à ce succès.
Alors, bah, on a croisé des supporters parisiens qui étaient, qui passaient de Charpie à l'Adidas Arena, étaient donc complètement euphoriques après cette victoire en Coupe de France. On écoute les supporters.
Allez, avec les supporters du Paris Volley, je suppose que c'est une merveilleuse soirée pour vous ce soir.
Oui, très belle soirée, très belle. On a eu un peu peur parce que c'était accroché à chaque set. Puis ouais, Nice a très bien joué quoi. Et surtout à la fin, au début, il ratait un peu le service, à la fin, il ratait plus rien. Et bon, bah là, on gagne, on est heureux, voilà. C'est...
Vous êtes là tous les matchs ?
Quasiment. quasiment. Voilà.
Pourquoi le volley ? Pourquoi le volley ?
Parce que déjà, c'est un sport que je pratique. Et puis, c'est toujours spectaculaire quoi. Ouais, voilà, on voit les attaques, ça va, ouais, surtout les pros, ça va, c'est impressionnant quoi, voilà.
Oui, et puis alors dans une super ambiance, hein, oui c'est vrai.
Oui aussi, oui. Bah c'est vrai que nous là on est du groupe de supporters de Paris, on essaye un peu de mettre l'ambiance dans la salle. Ouais. C'est pas toujours évident, mais là cette année ça part bien, donc voilà.
Bon maintenant faut pas souper hein. Dès la semaine prochaine contre PC Robinson.
Oui, c'est un derby, on a gagné chez eux le dernier match de la saison. Là ils sont bienvenus solides gagner chez nous. Là on a un match décisif à jouer, donc on va essayer, nous on y sera, normalement on y sera et on sera pour gagner, voilà.
Bon alors je suis avec un autre supporter, comment t'as vécu cette soirée ?
Incroyable, soirée de dingue, on finit l'année comme c'est pas permis, on fait un super match, on a une super équipe, des joueurs exceptionnels qui ont réussi à se trouver, qui ont mis un peu de temps mais qui ont réussi à se trouver.
Bon, quoi qu'il arrive la semaine prochaine, ça sauve la saison quand même, non ?
Là ça sauve la saison, la semaine prochaine c'est que du bonus. On va avoir un super beau joker médical qui va nous rejoindre en plus. Si on peut aller chercher les playoffs, aller taper tour, aller monter en demi, pourquoi pas. Mais déjà la saison elle est réussie grâce à ça, il n'y a pas de débat.
Dans le volet, tu m'as dit que c'était un vrai sport d'équipe, c'est super, on l'a vu hein.
C'est ça, c'est pour moi dans tous les sports collectifs le plus grand sport d'équipe qui existe. Il n'y a aucun point qu'on peut faire tout seul, c'est pas possible en fait. Et c'est ça qui est incroyable à regarder.
Et alors ça change de Charpie, on n'a rien contre Charpie, mais l'Arena c'est fabuleux ce soir.
L'Arena c'était fabuleux, c'est incroyable de voir autant de gens, de voir 8000 personnes dans une salle pleine pour le voir l'équipe de Paris jouer, moi c'est incroyable. Tout le monde nous a suivis avec le tambour, c'était trop bien. Et on a passé une soirée dingue.
Donc la fête belle ce soir.
La fête va être belle, elle a déjà commencé.
Voilà, ils étaient ravis, effectivement, ces supporters parisiens. Alors, on va écouter aussi l'entraîneur, Mauricio Mota Paez, l'entraîneur de cette équipe parisienne, qui naturellement apprécie sa victoire, même si lui veut aussi rester concentré pour le match de cette semaine.
Premièrement, quel peut être l'effet et l'impact d'une victoire comme celle-ci avant le match retour au Plessis, notamment ? Comment ça peut jouer ? Comment ça peut se mesurer ?
C'est sûr qu'une victoire sur un match aussi difficile, parce que Nice, ils étaient vraiment à l'auteur pour l'événement. Donc, on a vu les scores, hein, comme on s'était hyper serré, personne n'a dominé, ça s'est joué à rien du tout. Donc, c'est vrai que ça va donner un peu de confiance, ça va donner un peu de on peut faire quelque chose. Et il y aura aussi tout un autre match, parce que c'est retour, c'est chez eux. Là, on est dans d'autres conditions. Mais l'important, c'est aujourd'hui quand même, c'est magique pour les clubs, c'est incroyable pour les joueurs. Je suis vraiment très content pour eux. Ils ont énormément donné ces derniers temps. J'ai exigé peut-être un peu trop de temps en temps, mais ça s'est payé à la fin. Et je suis vraiment très fier de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui.
Donc la saison est bonne, quoi qu'il arrive.
Ah non, l'aventure sportive humaine, aujourd'hui, elle est déjà réussie. Elle est gravée dans mes mémoires pour toujours. Pour nous, c'est quelque chose que nous avons fait ensemble. Ça fait 45 jours que je suis là. On a petit à petit construit la confiance. On a petit à petit construit cette relation. On a donné entre nous vraiment un état d'esprit de aidons chacun l'autre pour que l'autre soit plus fort, pour que l'autre soit mieux. Et ils ont réussi. Et je pense que c'est une des clés de la victoire aujourd'hui, même si émotionnellement, on n'était pas facile.
Justement, depuis 45 jours, tu as opéré une vraie bascule dans cette équipe. Elle était en lisière de la relégation, elle était en manque de confiance totale, l'état d'esprit n'était pas réellement là. Et là, c'est une équipe dont on a le sentiment qu'elle est quelque peu transformée. Hein.
Oui, parce qu'en 45 jours, on ne va pas apprendre le volleyball. On va plutôt essayer d'aller toucher les cordes qui peuvent fonctionner rapidement. Et je pense que c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de avoir envie de venir à l'entraînement, avoir d'être ensemble. Et on va faire quelque chose ensemble, on va jouer, on va travailler, on va être à la muscule, on va être à la vidéo. Mais le plaisir d'être là. Et je pense qu'ils ont retrouvé ça. Et bravo, quoi.
Effectivement, bravo. Hein. Il n'y a pas d'autre mot donc, pour cette victoire parisienne en Coupe de France de volley. On va finir avec un joueur, le libéro Jérémy Mouel. Il n'avait jamais gagné de Coupe de France. C'était sa première. Et croyez-moi, il a apprécié sa soirée. Bon, Jérémy, quelle est belle cette soirée.
Elle est très, très belle. Elle a été très, très dure. C'est une finale. On n'a pas joué de la meilleure des façons, mais n'y sont plus. Il y a eu beaucoup de, je pense, de pression au niveau de l'enjeu, de l'adrénaline. Et au final, dans les moments importants, on a été meilleur, je pense, sur toutes les fins de set. Ça s'est joué que sur les fins de set, sur des petits détails. Et après, notre race de notre pointu qui est extraordinaire depuis le début de la saison, pour finir, ça marque un peu aussi comment on joue depuis cette année. Et franchement, on est super content pour le club de Paris, qui est un des plus grands clubs de France et qui mérite son titre. Et moi, c'était ma première victoire en Coupe de France. J'en avais perdu deux. Donc voilà, je suis très, très content.
Plus heureux du monde.
En plus devant un public de folie, quoi.
Un public de folie, Adidas Arena plein et beaucoup plus de Parisiens. Il y avait beaucoup de Parisiens dans la salle, ils nous ont bien poussé et ça nous a aidé ce soir. Vraiment une soirée extraordinaire.
Ça va donner l'envie de revenir.
Bien sûr, on a envie de revenir. On a envie de continuer la saison. On a un match important mardi. Oui. On va essayer de bien récupérer, même si ça, c'est toujours très dur le fait de passer. Après un titre comme ça, un match avec autant d'intensité et d'émotion, on va essayer de bien récupérer pour bien préparer ce match mardi. Voilà.
Et quoi qu'il arrive mardi, la saison, elle est belle avec cette victoire en Coupe de France.
Oui, elle est belle, mais on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller plus loin. Je pense qu'on a un groupe qui a envie de se battre. Donc voilà, on va essayer de le faire.
Bon, ce soir, il y a une petite fête quand même. Plus petite quand même.
Ouais, on va voir, on va discuter entre nous, mais c'est sûr qu'on va fêter ça entre nous, mais doucement, tranquille.
Bravo, Jérémy.
Merci.
Voilà, en tout cas, elle était belle, hein, Théo, pour résumer cette soirée de volley. Hein. Et ils remettent ça l'année prochaine. Hein, à la
ouais, ouais, ça a été annoncé. Ouais. Mmh. Ça fait plaisir d'avoir des événements comme ça pour le volley, c'est bien.
Ah, oui. Allez, autre événement fort donc, qu'on vous fait vivre sur Mon Paris Sport, eh ben, c'est une interview d'Adrien Faumeau. C'est un des meilleurs pilotes de rallye français. Et il nous a fait l'honneur hein, de partager un peu de son temps avec Mon Paris FM. Alors, on l'a interviewé cette semaine au téléphone. Vous allez voir, interview d'un petit quart d'heure où on a surtout parlé de son début de saison, donc Adrien Faumeau.
Adrien, bonsoir. Alors Adrien, tout d'abord, je suppose que vous êtes ravi de ce début de saison quand même.
Oui, je suis quand même satisfait de ce début de saison. On est quatrième du championnat, on est à 11 points de la deuxième place. Donc c'est assez serré, on fait un très beau rallye du Kenya avec une belle deuxième place. On a eu, voilà, je suis un peu en dents de scie parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de résultats sur les deux premières manches. Mmh. Mais en global, oui, c'est très positif. Je me sens bien dans l'équipe. Je me sens bien aussi dans la voiture. Mais en termes de performance, j'aimerais un peu plus. Voilà.
Oui, alors on va rappeler, hein, quatrième à Monaco, cinquième en Suède. Et puis donc deuxième, effectivement, vous l'avez dit, à ce rallye du Kenya. Ça laisse un petit peu des regrets parce que vous avez eu quelques petits pépins au niveau de je crois au niveau où vous avez crevé aussi et puis l'orage aussi qui vous a un petit peu perturbé, puis une surchauffe moteur.
Ouais, alors le rallye du Kenya c'est un peu un rallye marathon, donc ouais. Donc oui, on a eu quelques petites crevaisons qui nous ont pas, c'est pas ça qui nous a le plus pénalisé, j'ai envie de dire, c'est plutôt la pluie dès la première spéciale, mais qui tombe pas sur pour tout le monde, donc forcément ça c'est un peu une loterie, mais bon, ça fait partie du rallye. Et forcément là, au Kenya, quand c'est la saison des pluies, et lorsqu'il pleut là-bas, c'est des gros orages très localisés, beaucoup d'inondations rapidement. Mm-hmm. Et ensuite, par contre, des surchauffes moteurs, parce que dans la boue, ça peut colmater les radiateurs et ça peut créer des petites surchauffes moteurs qu'il a fallu gérer. Mais au final, la voiture s'est très bien comportée jusqu'au bout. On peut dire que la voiture est très fiable sur ce point-là.
Oui, alors justement, parlez-nous un peu de cette voiture et de votre écurie cette année. Vous êtes carrément plein de, en plein dedans, vous êtes en pleine confiance, hein.
Ouais, je suis en pleine confiance avec l'équipe. On travaille d'arrache-pied pour se battre face au Toyota. Il faut la mettre avec Hyundai. On se bat face à un gros concurrent. Il n'y a pas de doute, mais voilà, qui n'est pas insurmontable. Mais il faut qu'on optimise tous les points pour pouvoir justement se battre et surtout les terrains. Voilà, c'est ça qui est compliqué en rallye aussi. On ne se bat pas que sur une surface. On est une fois sur la neige, une fois sur la glace, une fois sur la terre ou sur le goudron. Et ça peut tout le temps changer. Donc il faut une voiture très très polyvalente, et puis parfois on est plus à l'aise que d'autres fois, et on essaie de tout combler pour optimiser au maximum.
Bon, Adrien, vous avez un circuit fétiche, je pense que c'est le Monte Carlo. S'il y en avait un qu'il fallait gagner, ce serait celui-là.
Ouais, c'est sûr que le rallye Monte Carlo, c'est le rallye que j'allais voir quand j'étais plus petit, en spectateur, avant d'abord le parcourir. C'était ma première course en championnat du monde. Voilà, c'est un monument, hein. C'est aussi des spéciales qui se déroulent en France, même si le rallye est organisé par l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, mais en tout cas les spéciales sont en France, et c'est un rallye mythique, il se passe toujours plein de choses, et donc forcément c'est le rallye à gagner. Il y en a quand même d'autres, je pense qu'il y a aussi le rallye de Finlande, il y a la Grèce, le rallye du Kenya quand même, c'est quand même des monuments de ce sport, et forcément on a envie, mais c'est vrai que le rallye Monte Carlo, c'est le rallye, quoi.
Oui. Et il y en a un plus dur qu'un autre dans l'approche, dans la préparation?
On va dire que dans l'approche, certains rallyes peuvent être différents. Le rallye du Kenya, c'est un rallye où on va gérer la voiture, essayer d'avoir un bon rythme à tenir jusqu'au bout en essayant d'éviter tous les problèmes. Un rallye Monte Carlo, il va falloir être très malin sur les choix pneumatiques, avoir les bons pneus, c'est ça souvent qui permet de gagner ou de perdre un rallye Monte Carlo, c'est le bon choix de pneus au bon moment en fonction de la météo, des conditions. Donc ça, c'est un gros challenge avec les équipes. Et puis après, il y a d'autres rallyes comme la Finlande où là, ça va être la pure attaque, pure performance du début à la fin. Ça va jouer au 10e dans les spéciales. Donc on va dire que chaque rallye a un peu son approche. Mais à la fin, je pense qu'un des plus durs, ça sera quand même toujours le rallye Monte Carlo de par les conditions et voilà, la spécificité du rallye.
Oh, vous allez bien finir par en décrocher un. Vous allez bien finir par le décrocher, ce fameux rallye.
Ah, écoutez, il m'a un peu glissé des doigts en Arabie Saoudite l'an dernier par un pointage en avance. Voilà, une erreur de l'équipage, on va dire de mon copilote, et voilà qui nous prive cette première victoire. Bon, voilà, voilà, j'espère qu'elle va arriver assez rapidement. En tout cas, j'y travaille, je fais mon maximum pour y accéder, mais aussi je reste vachement aussi focus sur le championnat, hein, parce qu'on est bien classé, et malgré tout, de marquer des bons points à chaque fois, ça nous permet de rester dans le match, donc c'est important.
Oui, bien sûr. Est-ce que le fait d'être redescendu en VRC 2 en 2023, et après être remonté, ça vous a apporté un petit plus finalement? Est-ce que, avec le recul du temps, ça a été une bonne chose?
Alors oui, sur le coup, c'était pas facile la décision, mais en tout cas, a posteriori, à maintenant, j'ai envie de dire, c'était une bonne année pour moi, pour me reconstruire, pour me reprendre confiance, pour faire le tri sur ce qui me plaisait sur le rallye, ce qui me plaisait pas, et de travailler tous ces points-là pour être le plus performant possible par la suite et pour remonter en rallye 1 solide. Et je pense que c'était un peu mission réussie là-dessus. On est remonté dès l'année d'après, ce qui n'est pas toujours évident. Et en plus avec des belles performances depuis 2 ans, donc je suis plutôt très satisfait, et voilà, c'est vrai que maintenant j'ai plus d'amertume d'être descendu en rallye 2, d'autant plus que je pense que l'an prochain les voitures s'en rapprocheront d'autant plus, donc voilà.
Donc là vous préparez la Croatie. Alors le grand public, il est un petit peu curieux de savoir comment se prépare un pilote entre deux rallyes. Bon, il y a la préparation, il y a les reconnaissances, mais il y a aussi une préparation physique et peut-être même mentale.
Il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors il y a la préparation physique, mais ça tout le monde connaît, les sportifs s'entraînent, c'est normal.
Qu'est-ce que vous faites, vous ?
Mais nous plus spécifique, on va travailler tout ce qui va être l'équilibre, la réactivité, tout en faisant du sportif. Moi en sportif, je vais surtout faire course à pied, vélo, parce que j'aime bien ça.
Voilà, ouais.
Je vais aussi faire tout ce qui est renfort musculaire, surtout sur tout ce qui est le tronc, parce que voilà, on prend beaucoup de chocs dans la voiture, donc il faut être bien gainé entre guillemets. Mais c'est surtout un sport d'endurance, donc on fait 4 jours de course, donc en fait c'est surtout un rythme qu'il faut avoir. Et puis après, tout ce qui va être préparation mentale, alors c'est pas le côté un peu psy, ça va être plus le côté réactivité, attention visuelle qui est importante, la réaction, la prise de décision lorsque le cardio est assez élevé. C'est toutes ces choses-là qu'on peut travailler avec des exercices qui sont intéressants et qui permettent en fait de se retrouver beaucoup plus à l'aise dans la voiture lorsqu'il faut gérer des situations. En rallye, il y a beaucoup d'improvisation, donc il peut toujours se passer quelque chose, devoir réagir, une pierre, essayer de l'éviter, mais prendre la bonne trajectoire derrière. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui permettent d'éviter une erreur ou une crevaison, et qu'on dit parfois, en fait, ce pilote, il a la chance ou l'autre, on n'en a pas. Et en fait, c'est parfois, en fait, c'est juste l'autre, il a bien travaillé, et il a mieux réagi à la situation qu'un autre. Voilà.
Et vous faites des reconnaissances aussi auparavant? Comment ça se passe?
On a souvent des vidéos aussi qu'on reçoit de la part de l'organisation qui nous permettent de travailler d'abord en amont sur les spéciales que l'on va rencontrer. Donc ça va être le dénivelé, le grip, le profil des spéciales. On peut même commencer à faire une première ébauche de notes sur ces vidéos-là. Mmh. Et puis après, lorsqu'on arrive sur la course, là c'est une semaine un peu classique. On fait les reconnaissances, on a droit à deux passages dans chaque spéciale, à vitesse limitée aux limitations de vitesse. Et ensuite, on part en spécial. Et là, bien sûr, il n'y a plus de limitation et la course démarre, quoi.
Oui, et naturellement, ça demande une très, très, très grande complicité avec le copilote. Hein. Ça, faut très bien se connaître tous les deux.
Oui, il faut bien se connaître, mais en tant que collègue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut bien, il faut avoir quelqu'un avec qui on peut bien travailler avec. Pas forcément d'être son meilleur ami, mais quelqu'un avec qui on travaille bien, qu'on est complémentaire. Et ça, je pense que c'est le point fort d'un équipage. C'est parfois pas forcément avoir besoin de parler, mais chacun sait ce qu'il a à faire et comment ça marche. Et dans ces cas-là, on dit que c'est bien rodé et que ça fonctionne bien, quoi.
Et pour l'instant, c'est votre cas. Tout va bien. Rassurez-nous.
Oui, pour l'instant tout va bien, va bien avec Alex. On continue, il n'y a pas de souci. On essaie d'aller décrocher une victoire et d'être en lice pour le championnat.
Alors, le fait qu'il y ait eu deux énormes champions pilotes français durant ces quinzaines d'années, hein, entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, ça vous met un peu plus de pression, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de rallye, on pense fatalement à eux deux.
Alors non, j'ai pas de pression, parce que les Français ont leur quota.
Ouais, mais il faut faire aussi bien qu'eux, quoi. Voilà.
Mais en tout cas, je sens un peu, comment dire, une habitude pour les Français que la France gagne en rallye. Et ça, c'est sûr que c'est plus compliqué, c'est pas si facile que ça. Donc oui, c'est sûr qu'il y a une attente un peu de la part des Français, en mode c'est normal de gagner, mais non, c'est pas si normal que ça.
Et c'est ça le problème.
Donc oui, c'est difficile, mais j'essaie vraiment d'y faire abstraction, d'essayer de faire ma carrière, d'essayer de porter les valeurs de la France au plus haut. C'est pas évident, mais voilà, j'y crois. Moi, je démarre aussi ma carrière et j'espère que ça durera longtemps et que j'irai chercher des titres et peut-être autant de titres qu'eux. Écoutez, on peut que se le souhaiter. Si on n'y croit pas, nous, personne n'y croira pour nous.
Oui, en tout cas, il n'y a aucun regret d'avoir laissé tomber la médecine pour le sport auto. Hein. Maman peut être fière. Hein.
Écoutez, oui, il n'y a pas de regret. D'ici là, à ce que maman soit fière, maman était fière que je devienne médecin.
Non, mais c'est pour
elle
ça que
plutôt triste que je devienne pilote automobile. Mais bon, maintenant elle est habituée, elle est contente. Mais oui, en tout cas, maintenant moi j'ai pas de regret d'être parti dans ce sport qui est ma passion et qui est mon métier maintenant. Donc forcément, c'est un avantage de pouvoir allier les deux. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas qu'une passion, il y a aussi beaucoup de travail derrière. Les gens ne se rendent pas forcément compte parfois tous les sacrifices qu'il y a derrière. Mais même moi, je m'en rendais pas compte, hein, quand je me suis dit tiens, j'ai envie de démarrer rallye jeune et puis de mettre mes 20 euros et de voir où ça mène. Je m'attendais pas à tout ce qu'il y avait derrière, qui parfois peut être un peu plus pesant par rapport à ce qu'on aime, qui est le pilotage pur. Mais bon, quand on monte dans la voiture, on oublie tout ça.
Oui. Alors vous vous êtes exprimé un petit peu sur le manque d'exposition de votre discipline. C'est vrai que quand Loeb ou Ogier ne gagnent pas, on n'en parle pratiquement pas.
Je pense que dans le rallye, on a manqué un peu le coche de tout ce qui était nouvelle communication, qui était les réseaux sociaux, etc. Alors oui, ils se sont installés dessus, mais il n'y a pas eu cet engouement que peut avoir. Maintenant, il y a certains, comme on appelle les influenceurs, mais je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais en tout cas, qui arrivent à vraiment faire fédérer des gens, les faire suivre, découvrir leur expérience sur des disciplines que les gens ne connaissaient pas. Et en rallye, on a un peu plus de mal, mais malgré tout, on a aussi un peu plus de mal parce que voilà, on n'a pas pris le coche et puis on a un sport qui demande énormément de travail et on n'a pas forcément le temps de faire toute cette communication à côté. Ouais. Donc, il faut qu'on trouve un compromis, j'ai envie de dire.
Ouais. Et vous avez quelques idées dessus?
J'ai des idées. Après, on verra bien. Je pense qu'il faut le rendre un peu sexy, de comment on le filme, de comment on le voilà, la promotion même, de aussi accompagner les gens pour venir nous voir en rallye aussi. Il y a ça, je pense, qui peut être amélioré. Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui dit tiens, j'aimerais bien avoir un rallye, bah, quand il commence à chercher, c'est un peu parfois pas assez facile, j'ai envie de dire. Il faut que ce soit un peu plus ludique, de comment accéder. Peut-être qu'en fait, le rallye, là, il est gratuit, il faut le rendre un peu payant, mais au moins les gens, ils payent une place, même si elle est pas chère, mais ça leur permet de se dire ah bah tiens, je vais aller me poser là et je sais que je vais voir passer les voitures, j'ai un guide, je peux mettre mon GPS, j'y arrive. Voilà, je pense qu'il faut un peu plus aider les gens sur cette voie là ça oui. C'est pour les spectateurs, et puis en rallye, bah, il faut qu'on soit un peu plus sur les réseaux, à faire des vidéos un peu plus sexy que ce qu'on fait, se renouveler un peu là dessus mais surtout montrer en fait les passages un peu compliqués qu'on a nous en course. Donc, voilà, j'ai quelques idées.
Ouais, et peut-être aussi faire un petit peu de spectacle, hein, au bord des routes, pour les spectateurs qui vous attendent justement.
Oui, peut-être. Après, on a déjà les super spéciales qui sont plutôt assez spectaculaires et intéressantes à voir. Après, est-ce qu'on ne peut pas aussi faire aussi du spectacle pour les gens quand ils nous attendent, un peu comme il se fait en F1, quand moi j'avais eu l'expérience d'emmener des gens avec moi, des VIP, sur le circuit. Est-ce que ça peut aussi intéresser les gens de voir ça en rallye, mais aussi peut-être d'amener aussi des célébrités, pour pas que le rallye soit juste basé sur le rallye, mais aussi sur un show, un spectacle. Donc oui, je pense qu'il y a des idées comme ça à prendre.
Oui. Et les problèmes au sein de la Fédération française de sport automobile, naturellement, ça vous impacte. On sait que Daniel Elena a poussé un coup de gueule et sera peut-être candidat à la présidence. Ça vous inspire un commentaire ?
Ah, écoutez, je suis pas trop impacté directement pour ma part sur ce qui se passe en ce moment à la Fédération. J'ai pas non plus tous les tenants aboutissants. En tout cas, j'espère juste c'est que les amateurs, etc., tous les licenciés n'ont pas de soucis là-dessus. Mm-hmm. Après, ce qui se passera en interne, on verra bien. Et après, qui se présentera en candidat, de toute façon, il y aura des élections, etc. Donc, on verra bien.
Ouais. Quand on fait des rallyes comme vous, est-ce qu'on a le temps de s'intéresser aux autres activités du sport mécanique, c'est-à-dire la Formule 1 ou même les rallyes raids, par exemple? Ça vous intéresserait un jour d'en faire un petit peu comme Sébastien Loeb sur la fin de votre carrière, par exemple?
Alors oui, j'aime bien suivre tout ce qui est sport mécanique, hein, mais aussi côté moto. Mais par contre, de faire le rallye raid, oui, pourquoi pas, à la fin de ma carrière. J'aime bien l'aventure, j'aime bien prendre moi ma moto, par exemple, aller faire 10 jours au Maroc. Donc ça, c'est les choses qui me plaisent, donc je me dis pourquoi pas. Alors en moto, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas du tout le niveau pour me battre devant. Ouais. Alors qu'en sport auto, je me dis qu'il y a peut-être, avec un bon copilote qui peut m'aider sur les rythmes et pas se tromper dans les choses, dans les décisions, d'essayer. En termes de vitesse, on l'a, il faut juste réussir justement à trouver le bon rythme, la lecture du terrain, et c'est des choses que j'aime bien moi quand je pars un peu en aventurier. Donc oui, pourquoi pas. La F1, non, pas du tout, je suis trop âgé, il faut démarrer en karting très tôt, donc non. Par contre, je suis, mais pourquoi pas des courses d'endurance,
oui, voilà, en GT, les 24 heures du monde,
24 heures, ouais. Exactement, ouais. Les 24 heures, oui, ça m'intéresserait. J'ai déjà fait des courses de 24 heures en tout terrain, les 24 heures de Paris. J'avais adoré le côté maintenir sa voiture, essayer d'être le plus fluide possible pour garder les pneus, l'essence, la mécanique. Donc oui, c'est ce genre de discipline que j'aime bien. Mais je me dis que j'ai encore quelques années en rallye.
Voilà, priorité, la Croatie, voilà.
Exactement.
Voilà. Merci en tout cas. Et puis, écoutez, on se rappelle, hein, s'il y a victoire, on se rappelle, d'accord? Ok.
Avec plaisir, hein, merci.
Merci beaucoup, Adrien.
Merci à vous.
Allez, merci. Merci à Adrien Fourmeau, hein, je l'ai dit, c'est l'actuel grand pilote des rallyes et on espère qu'il va effectivement en décrocher une avant la fin de cette saison et on aura l'occasion de le rappeler. Merci en tout cas à lui. Allez, juste un petit mot avant quand même qu'on aborde le chapitre foot. Vous savez qu'on a changé d'intermédiaire à la mairie de Paris, hein, puisque après les élections municipales a été constituée hier la nouvelle équipe et c'est Maxime Sauvage qui hérite donc des sports matins, des équipements sportifs et de l'égalité à l'accès au sport. Notre ami Pierre Abadan, hein, qu'on a beaucoup, beaucoup côtoyé pendant les différentes manifestations qui étaient là il y a 3 semaines, eh bien lui, il hérite du tourisme et de la vie nocturne. Et puis comme on parlait un petit peu des sportifs qui se lancent dans la politique, on va saluer quand même l'élection de Serge Blanco comme maire de Biarritz. Voilà. Allez, le foot, Marius.
Semaine France internationale.
France qui bat Brésil 2-1, France qui bat Colombie 3-1. Tout va bien.
Bah, tout va bien.
On a justifié sur ces deux matchs notre label de favori de la prochaine Coupe du Monde. Hein.
Favori, moi j'irai.
Ah, bah, tu, quand même.
Grand favori, je sais pas. Mais non, en tout cas, favori, ça c'est sûr. Non, sinon, globalement, oui, ça s'est très bien passé. Il faut savoir que France-Brésil, c'était l'équipe normalement qui devrait débuter à la Coupe du Monde. On a retrouvé Mbappé qui, avec sa petite blessure, on avait peut-être un peu peur de son retour. Il a été en jambes, il a même marqué. Bon, faut dire que c'était face à un Brésil relativement fatigué, blessé. Moi, je regarde la défense du Brésil. Bon, je suis un peu... je connais pas trop les joueurs, quoi, on va dire. Mais sinon, après, il y a eu la Colombie. Et là, ça a été surprenant parce que Colombie, ça a été une équipe qui a été remaniée, pour le coup, parce que c'était pas du tout le même 11 titulaire. Hein, beaucoup de nouveaux, dont Maxence Lacroix, par exemple, Marcus Thuram en attaque. Et ça a été très surprenant puisque grosse victoire des Français, donc 3-1, comme tu l'as dit, Philippe.
Oui. Alors, Théo, ton nom, t'as vu les matchs aussi?
Oui, bien sûr.
Bien sûr, tu dois voir, hein, en bon joueur avec le sportif. Donc, voilà.
Assez content.
Quand même, on peut être satisfait, les deux matchs.
Assez content,
de France,
surtout sur le
potentiel offensif. Bah, c'est comme pour le rugby, hein. On peut aligner pratiquement deux équipes. Ouais. Hein. Voilà.
C'est vrai, surtout sur le plan tactique. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu un vrai choix de Deschamps. Il a testé des choses sur ces deux matchs, notamment offensivement.
Quoi, il peut jouer offensivement.
Évidemment, mais il a essayé de se renouveler un petit peu dans l'analyse technique des matchs et surtout offensivement. C'est-à-dire qu'on a vu Dembélé associé à Mbappé, on a vu Olise aussi très en forme. Mmh. Et même si en effet le Brésil n'était pas au niveau à mon avis qu'il aura à la Coupe du Monde,
oui bien sûr,
c'était quand même important de gagner ces matchs là et on a eu surtout très plaisant contre la Colombie, ça a bien joué, ça a beaucoup bougé.
On y a mis la manière, on a marqué des jolis buts, on a eu des belles actions, puis des joueurs quand même qui sont rentrés qui ont été convaincants même sur le deuxième match, hein.
Surtout qu'il y avait des joueurs surtout contre la Colombie qui devaient marquer des points pour être appelé, hein. Moi je pense à Marcus Thuram, je pense à d'autres joueurs comme Maxence Lacroix avec sa première sélection, et franchement ils ont plutôt marqué beaucoup de points dans ces matchs en tout cas.
Là où d'autres moyens, notamment Camavinga qui se voit un petit peu relégué dans la hiérarchie des milieux de terrain.
Donc on verra ça, la sélection c'est le 14 mai, c'est ça, hein, Didier Deschamps, mais il y aura quand même encore deux autres matchs de préparation juste avant le Mondial. Bon, c'était une semaine de matchs pour aller chercher
les
justement
barrages,
ces billets en Coupe du Monde, Marius.
Ouais, donc on a eu le barrage de zone euro et on a eu des surprises, certaines surprises, d'autres non. On a eu Turquie, Roumanie, victoire de la Turquie plutôt logique 1-0. L'Italie contre l'Irlande du Nord, on attendait beaucoup les Italiens. Ils ont gagné 2-0. Le Pays de Galles contre la Bosnie, et moi je trouve que c'est plutôt une surprise, en tout cas parce qu'il y a eu match nul et victoire de la Bosnie au tir au but. Pays de Galles, quand même, c'est une nation qui participe souvent aux compétitions européennes. On a eu Ukraine contre la Suède, et grosse victoire des Suédois 3-1. Pologne-Albanie, victoire de la Pologne 2-1. Slovaquie-Kosovo, gros match, victoire 4-3 des Kosovars. Danemark-Macédoine, victoire du Danemark 4-0. Et République tchèque contre l'Irlande, il y a eu d'abord match nul 2-2 et victoire des Tchèques au tir au but.
D'accord, donc ça donne quoi pour les prochains matchs?
Les finales de barrage, deux beaux matchs. Il y a Suède-Pologne, quand même. Kosovo-Turquie, République tchèque-Danemark et la Bosnie-Herzégovine contre l'Italie.
Donc malheureux vaincu.
C'est fini.
C'est sur un match.
Il n'y a pas d'aller-retour.
Et il y avait quelques matchs amicaux sympas. Alors, pour l'anecdote, en allant à l'Adidas Arena, j'ai eu la chance de croiser donc des supporters sénégalais qui allaient au Stade de France voir le match entre le Sénégal et puis
le Pérou.
Les
Sénégalais, ils ont gagné, victoire 2-0, les champions d'Afrique, je tiens à dire.
Plus que jamais.
Ils ont présenté le trophée en plus.
Ils ont ramené le trophée, ils ont célébré, etc.
C'est ce que je leur ai dit dans le RER. Hein. C'est vous les champions d'Afrique.
Bien sûr. Et on a eu d'autres matchs.
Et d'ailleurs, ils ont présenté la coupe.
Bien sûr. Et on a eu d'autres matchs, on a eu notamment un Mexique-Portugal un peu décevant, un 0-0, deux gros matchs Suisse contre l'Allemagne par exemple, victoire des Allemands 4-3, les champions d'Europe en titre, l'Espagne contre la Serbie, les Espagnols ont gagné 3-0, et Pays-Bas-Norvège, la Norvège future adversaire de la France, s'est inclinée aux Pays-Bas 2-1.
D'accord, Marius C'est
des matchs amicaux, on a vu surtout dans certains matchs pas mal de gestion des corps pour des joueurs qui veulent justement participer évidemment à la Coupe du Monde et aussi aux grandes échéances européennes et dans leurs championnats qui arrivent, donc parfois ça se gère un petit peu, ça reste des matchs amicaux, donc Les seuls matchs intéressants, entre guillemets, c'est pour les futurs adversaires de l'équipe de France, c'est quoi. C'est voir ce match de la Norvège, voir ce qu'il en est un petit peu à ce moment-là de l'année, quoi.
Allez, pour être très complet, comme on le fait pour le foot, c'est national aussi.
National, oui.
27e journée, donc le national qui s'est recalé sur la Ligue 1.
Ouais.
Donc avec les clubs franciliens, des fortunes diverses.
Plutôt bon bilan, ouais. Mais malheureusement, on a eu un Dijon-Versailles et défaite de Versailles 3-1 à Dijon. Fleury contre Bourg-en-Bresse, victoire 3-0 de Fleury, important cette victoire. Et Saint-Brieuc contre Paris 13 Atlético, victoire, pareil, très importante du Paris 13 Atlético, 1-0.
Ouais, ce qui fait que Dijon, donc, est en tête du championnat avec 52 points, deuxième Sochaux 51, troisième Rouen 47, et ouais. du coup, eh bien, à la cinquième place, à égalité, il y a le Puy, Fleury et Versailles maintenant. Hein. Alors, bon, le Puy avec un goal average de plus 10, Fleury aussi, alors que Versailles a un goal average de plus 6, mais le premier club francien n'est plus Versailles pour l'instant. Ouais. Hein. Et puis Concarneau est 9e à égalité avec le Paris 13 Atlético avec 30 points, alors qu'en bas de tableau, donc 16e QRM avec 19 points, et 17e Saint-Brieuc 18 points. Un petit mot sur les féminines aussi. Est-ce que,
bien sûr, il y avait de la Ligue des Champions.
Ouais, une expression politique, Lyon est en ballotage favorable pour le match retour.
Ballotage favorable, attention quand même. Ouais. Attention quand même. Donc on a eu la Ligue des Champions féminine. Donc on a eu Wolfsburg contre l'OL. Mmh. Wolfsburg s'est imposé 1-0, mais il faut savoir que c'est à Wolfsburg. Donc l'OL, ballotage favorable, je sais pas, il y a un petit but de retard à rattraper.
Ouais, ballotage favorable quand même, non ?
On sait que l'Olympique Lyonnais, c'est l'Olympique Lyonnais, surtout ouais. En féminine. Le retour, en tout cas, il va être le 2 avril.
Ouais. Et donc en championnat ?
En championnat, on a eu des surprises là pour le coup, parce que Strasbourg-Lyon, un match nul 2-2. Lyon n'a pas l'habitude de faire de match nul ou de perdre. On a eu Paris FC Fleury, le derby Paris FC s'est imposé à Charletti 2-1. Ouais. Et on a eu Nantes PSG, match très important, hein, et victoire du PSG 2-1.
Oui, et du coup, le PSG, ils sont dans le trio de tête. Hein,
trio de tête,
c'est
ouais.
Lyon qui est en tête avec 53 points. Devant le Paris FC, deuxième, 39 points. Troisième, le PSG, 38 points. Quatrième, Nantes, 36 points. Et sixième, Fleury, qui est donc rétrograde avec 29 points. Voilà, c'est tout pour l'actu foot de cette semaine. On va saluer notre ami Stéphane Dezancourt, qu'on a laissé un petit peu libre, hein, tout comme la semaine dernière. Voilà, mais on le retrouvera, non pas la semaine prochaine, parce que c'est pas qu'on n'aura pas d'émission, mais le 13 avril.
Bien
voilà.
Sûr.
Et puis, on n'oubliera pas le direct sur le foot aussi. Hein. Voilà, mais enfin, où il aura l'occasion d'en reparler. Merci. On va finir avec le foot US encore un petit peu. Très brièvement, j'aimerais un petit peu qu'on rappelle les règles, parce que le grand public, il ne les connaît pas toutes.
Alors, ça fonctionne un peu comme le rugby, c'est-à-dire que c'est un jeu de gagne-terrain avec objectif de mettre la balle dans l'embut adverse. Sauf que nous, on fonctionne avec 4 tentatives pour parcourir 10 yards. Si vous remplissez le contrat, eh bien, vous avez à nouveau 4 tentatives. Et la grande différence par rapport au rugby, c'est que nous, on a la passe en avant.
Oui.
Une passe en avant par action qui change un peu toute la stratégie. Là. Et on a le droit aussi à ce que les rugbymen appellent le passage à vide. Bah, nous, on a le droit de bloquer carrément pour protéger nos coéquipiers.
Et il y a des coachings, il y a des cartons, c'est ça aussi, il faut dire un petit peu.
4 cartons, voilà. Une équipe de coaching d'environ 10 personnes. D'ailleurs, le rugby s'est inspiré de ça. Il met des coachs spécialisés. Et le coaching staff, parce qu'on parle d'un staff, est une équipe dans l'équipe qui coordonne et lie toutes les unités de cette équipe.
Et le décompte des points ?
7 points, alors 6 points pour un touchdown, essai, quoi. Avec une transformation à 1 point par rapport au rugby où c'est 2 points. Le coup de pied à 3 points, comme le drop. Et puis, il y a le safety où, quand vous vous faites plaquer dans votre propre zone de l'embut, vous perdez 2 points.
D'accord. Ben voilà, je crois que c'était important de le préciser pour les auditeurs. En tout cas, Dan, merci. Tu reviendras nous voir ?
Avec plaisir.
Hein ? Et puis tu nous diras un petit peu comment s'est passée ta saison, quoi.
Elle est bientôt finie.
Ouais.
La saison régulière est bientôt finie. En principe, il reste qu'un match le week-end prochain qu'on va gagner pour aller en play-off. Et si on gagne, il y aura la suite, mais la saison est bientôt finie.
D'accord. Merci Marc, en tout cas.
Merci à vous.
Et puis, c'est pour Mijouré, vous revenez aussi.
Ah bah avec plaisir.
Et bonjour à nos amis de Beansport, d'Afonseca notamment, Christophe Joss, vous leur dites bonjour entre autres.
Omar, il appréciera.
Voilà, très bien. Merci en tout cas, Tania. On se retrouve très vite.
Très vite, voilà.
Et puis merci à toute l'équipe qui m'a entouré. Merci naturellement à Jason d'avoir été aux manettes de cette émission bien riche et bien chargée. On vous a encore gâté ce lundi. Pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours et on finit, comme la tradition le veut, en musique. Et cette émission, vous pourrez, comme toutes les émissions, la retrouver naturellement en podcast. Belle soirée à toutes et à tous. Plus que jamais, vive le sport.
Merci. Merci, Philippe.
Merci. Merci. Merci.